Alléluia. Je voudrais vous inviter à prendre Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 et nous lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur notre Dieu. Je crois que ces couples, ces maris qui sont venus ce soir constituent des couples que Dieu va bénir d'une manière spéciale et particulière. Alléluia. Parce que nous sommes à ce séminaire, alléluia, pour appeler les femmes de ce pays, pour appeler les femmes de cette nation, pour appeler les femmes qui sont dans ce lieu à entrer dans le dessein de Dieu. Et je sais que lorsqu'une femme est bénie, alléluia, l'homme qui est dans sa vie est élevé, il est valorisé. Je sais que cet homme-là, alléluia, il est distingué parce que la parole de Dieu déclare, alléluia, que cet homme-là va siéger avec les anciens du pays, que cet homme-là sera considéré aux portes de la ville. Alléluia. Je le crois. Le test que le Seigneur nous donne de partager en ce jour est le test de la constitution du mariage. Dis Amen. Et Dieu, à partir de ce texte-là, nous donne des informations, nous révèle des réalités. La première réalité, c'est que le mariage est une institution divine. Elle n'est pas l'expression de la main d'un homme. Elle n'est pas l'expression de la volonté d'un homme. Mais le mariage est une œuvre de Dieu. Parce que nulle part dans la parole il n'est écrit qu'Adam s'est tourné vers Dieu et qu'Adam a dit à Dieu, Seigneur, je veux une compagne. C'est Dieu dans sa préséance qui a constaté, qui a lu dans le cœur d'Adam. Il a senti qu'Adam avait une aspiration et Dieu a répondu à l'aspiration d'Adam en emmenant, en créant une femme. Amen. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce même Dieu qui a initié le mariage ne peut pas ne pas être au centre du mariage. Imaginez un homme qui crée quelque chose et on dit que l'invention de cet homme porte une anomalie. De vous à moi, quelle est la personne la mieux indiquée pour trouver une solution à cette œuvre, sinon son créateur? Dieu ne saurait donc être mis hors du mariage, car Dieu est l'instigateur du mariage. En effet, c'est Dieu qui décide qu'Adam doit avoir une compagne. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais je me réjouis de ce que Dieu n'a pas pris la plante des pieds pour créer la femme, afin que la femme ne soit pas un marchepied ou un essuie-pied. Alléluia. Il n'a pas pris non plus la peau des fesses, de sorte que l'homme ne s'asseye pas sur la femme. Alléluia. Mais la Bible déclare que Dieu a pris la côte afin que la femme soit à côté de l'homme, qu'elle soit son vis-à-vis, elle soit à côté de lui. Alléluia. C'est lui également, Dieu, qui a conduit Ève vers Adam. C'est ce que nous dit la Bible. Le texte nous dit clairement ceci. Le texte dit, Dieu forma la femme de la côte d'Adam et il l'amena vers lui. Frère, je vais te dire quelque chose, ma sœur. Je vais te dire quelque chose. Si tu vis avec un homme, si tu es marié avec un homme, selon les principes de la parole de Dieu, je vais te dire quelque chose. Ce mariage n'est pas un hasard, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, rien n'arrive sans que l'Éternel Dieu ne l'ait décidé. C'est Dieu qui a permis que tu sois avec cette femme. Elle est donc le choix de Dieu pour toi. Je veux te dire quelque chose, ma sœur. Même si tes seins sont tombés, sont arrivés à destination, lui-même il a tété, les quatre enfants ont tété, les seins sont à destination, je veux te dire que c'est toi qui es la volonté de Dieu sur sa vie. Alléluia. C'est Dieu également, ma sœur, qui décrit la relation qui doit les unir. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si Dieu a dit que l'homme doit quitter son père et sa mère, la femme aussi doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à son époux. Ma soeur, si Dieu a dit cela, c'est parce que Dieu met la relation de mariage au-dessus de la relation filiale. Dis amen. Alléluia. Dieu dit tu dois quitter parce qu'avec son épouse il devient une seule chair. Il peut pas être une seule chair à sa mère. Il peut pas être une seule chair à son père. Mais avec son épouse il devient une seule. Alléluia. Je vais te dire que ce n'est pas une simple collaboration. Il y en a beaucoup qui disent on peut dire mon ex-femme, mais on peut pas dire mon ex-maman. C'est vrai. Mais dans ce cas de mariage, ce n'est pas une collaboration. C'est une fusion. Il a dit ils deviendront un. Alléluia. Nous voyons dans ce texte de la création qu'Adam était dans une attente. Il n'a rien dit. Mais lorsqu'il a vu Ève, le cri qu'il a poussé, voici, enfin, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. On s'est rendu compte en lisant ce texte que Adam avait une sorte de soulagement. Il était soulagé. Et je vais te dire, si tu n'es pas marié, l'homme que Dieu a choisi sur ta vie là, s'il est quelque part en ville en train de se promener, actuellement il est tourmenté parce qu'il te cherche. Alléluia. Tant qu'il ne t'a pas trouvé, il ne peut pas avoir le bonheur qu'il cherche. Il ne peut pas avoir la paix qu'il recherche. Il ne peut pas avoir l'équilibre dont il a besoin pour s'épanouir. Je vais te dire. Alléluia. De la même manière, lorsqu'on nous regarde, nous femmes, quand on n'est pas marié, on n'est pas épanoui. Tu la vois, elle est façon mointaine. Elle n'est pas bien. Mais lorsque la femme vit dans cette relation amoureuse, quand tu la vois, elle est toute pimpante. Elle est belle, elle est heureuse, elle est joyeuse. Quand tu la regardes, comment tu vas ma chérie? Ça va très bien. Mais parce que, alléluia, Adam est à côté. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, à la chute de l'homme, quelque chose s'est brisé. Le plan initial de Dieu a été dévié. Et le mariage est tombé sous la malédiction comme toute la création. Genèse 3:16 dit, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Alléluia. Je voudrais que tu te réalises, ma soeur, en ce jour, que cette parole était une parole de malédiction. C'était une malédiction. Car dans le plan initial de Dieu, la Bible déclare clairement qu'au commencement, Dieu fit l'homme, il le créa homme et femme. Alléluia. C'est le péché d'Ève qui a amené Dieu à dire, désormais, tes désirs vont te porter vers ton mari, mais il va dominer sur toi. Alléluia. Je me réjouis aussi, chers sœurs, chers frères dans le Seigneur. Je me réjouis car Jésus-Christ de Nazareth est tombé et parti à la croix. Alléluia. Jésus est monté sur le bois de la croix. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction afin que nous devenions bénédiction. Christ a brisé cette malédiction à la croix. Et je veux te dire quelque chose d'important. Il faut que tu le saches. Quand tu es chrétienne et que tu es, alléluia, dans la maison d'un homme, ma soeur, tu n'es pas un paillasson. Je vais te dire quelque chose, tu n'es pas inférieur. Mais la Bible déclare clairement qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Tous sont égaux devant le Seigneur. Alléluia. Jésus a pris nos malédictions. Il a pris la division qui est née de la chute. Car Adam, qui en voyant Ève, s'était écrié, enfin, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Lorsqu'à la chute, Dieu interroge Adam, la division s'installe. Stop, c'est pas moi. C'est toi Dieu. Parce que tu as mis la femme là à côté de moi. Et puis c'est la femme que tu as mis à côté de moi là, qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. En d'autres termes, le premier responsable, c'est toi Dieu. Première division. Deuxième division, ce n'est pas moi d'être, c'est la femme là. Alléluia. Deux divisions. Entre l'homme et Dieu et entre l'homme et la femme. Mais Dieu n'a pas laissé les choses telles qu'elles. Alléluia. Dieu, par le sang de son fils bien-aimé, est venu rétablir toutes choses. Et je veux te dire que le bonheur conjugal est possible. Alléluia. Le bonheur conjugal est possible. L'équilibre dans un foyer, c'est possible. Alléluia. Je disais la dernière fois, lorsque je parlais du texte de Ruth, je vous disais que il y a deux lettres qui différencient l'homme et la femme. En hébreu, La première lettre, c'est Aleph, on dit Aleph, Yod, Shin, qui pour désigner l'homme. Mais pour désigner la femme, on dit Aleph toujours, Shin et puis Yé. Vous remarquez que Aleph et Shin demeurent dans les deux noms, dans les deux appellations. Je vais vous dire, frère, Yé désigne la femme, c'est-à-dire la racine spirituelle. Yod désigne l'homme, c'est-à-dire la force de Dieu, la marque de l'autorité de Dieu sur la création. Mais Aleph et Shin, qui demeurent, signifie le feu. C'est-à-dire que quand Dieu n'est pas présent dans un foyer, quand Dieu n'est pas dans une maison, quand l'éternel Dieu n'est pas le fondement d'un foyer, ce qui demeure dans ce foyer, c'est le feu. Vous comprenez pourquoi nous avons des problèmes dans nos foyers? Parce que Dieu n'est pas le fondement de ces foyers. Parce que nous avons fondé ces foyers sans Dieu. Nous avons mis Dieu à l'écart. Nous n'avons pas compris le sens véritable que Dieu donnait au mariage. Nous n'avons pas compris ce que cela signifiait. Et nous nous sommes engagés dans une relation de mariage pour faire comme tout le monde, pour entrer dans la mode. Ou simplement par accident. Parce qu'il y a une grossesse, je me suis toujours dit, s'il y a une grossesse, je me marie. Donc, je me marie. Ou purement et simplement, ben voilà. Je pense que c'est arrivé, il est temps que je me marie, je regarde le temps, je me dis vraiment, et je prends de l'âge. Dans ma société, ben, on ne prend que des personnes mariées comme responsables, comme j'aspire à avoir un poste de responsabilité, donc je me marie. Mais si tu regardes ce qui est écrit là, tu te rends compte, mon frère, ma sœur, que le mariage est une chose sérieuse. Il y a un homme de Dieu qui a dit une fois, un seul être humain peut faire de votre vie un enfer ou un paradis. Alléluia. Il importe de comprendre ce qu'est le mariage. Toutes les soeurs que vous rencontrez, toutes les soeurs, je veux me marier. Oh, je veux me marier. Ma soeur, je vais t'expliquer ce qu'est le mariage. Alléluia. Le mariage est une institution divine. C'est un engagement sacré, solennel et irrévocable. Alléluia. Pourquoi? Parce que le mariage est une alliance. Et qu'est-ce qu'une alliance? Je voudrais que nous retournions un peu dans la parole de Dieu, que nous retrouvions un peu la première alliance. La première alliance est faite entre Dieu et Abraham. Alléluia. Dieu dit à Abraham, je veux entrer en alliance avec toi. Je voudrais que tu prennes des animaux, que tu sacrifies ces animaux, que tu divises ces animaux en deux, par égal. Et Abraham passe entre les animaux sacrifiés pour dire à Dieu, je m'engage vis-à-vis de toi. À partir de maintenant, Seigneur, je veux te dire qu'il n'y a que toi que j'adore. Toi, Dieu, tout ce que tu demandes est plus important que ce que moi je voudrais. Et Dieu aussi fait quoi? Il passe comme à travers le feu entre ces deux animaux et il s'engage vis-à-vis d'Abraham. Mais que va-t-il se passer? Dieu dit, ah Abraham, nous sommes entrés en alliance. C'est vrai. Mais maintenant je veux savoir si réellement tu m'aimes. Il faut que tu me montres que tu m'aimes, Abraham. Ben, je vais te demander une manifestation, un signe de ton amour. Il dit, voilà. Prends Isaac, ton fils, ton bien-aimé, celui que tu aimes, l'enfant que tu chéris, sacrifie-le pour me prouver que tu m'aimes. Abraham prend son fils. Il marche, la douleur dans l'âme, il va et il est prêt à sacrifier son fils. À ce moment, Dieu dit à Abraham, arrête. Maintenant, je sais que tu m'aimes et que tu me crains. Alors, vous vous rappelez l'histoire des milliers d'années après. Pour la descendance d'Abraham, Dieu aussi prend un engagement. Il prend son fils, son unique, celui qu'il aime, et il le sacrifie au bois de la croix. Pour dire à Abraham, Abraham, je me suis engagé vis-à-vis de toi. Je dis, tes intérêts passent avant mes intérêts. Voilà ce que signifie une alliance. Mais que nous dit la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il fallait véritablement qu'il y ait ce sacrifice-là? La Bible nous enseigne clairement qu'on appelle alliance aussi le testament. Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, la Bible est subdivisée en deux parties. On dit nouvelle alliance, n'est-ce pas? Ancienne alliance. Alléluia. Nouvelle alliance et ancienne alliance. Or, que dit la Bible? La Bible dit que pour qu'un testament soit valable, il faut que la mort du testataire soit constatée. Alléluia. C'est-à-dire que je suis vivant, je fais un testament. Tant que je vis, mon testament n'est pas valable. Mais le jour où je rends l'âme, alléluia, mon testament entre en vigueur. Mais ça veut dire que dans la relation de mariage, puisqu'il s'agit d'une alliance, l'homme et la femme qui s'engagent dans la relation de mariage renoncent chacun à ses intérêts personnels. Nous ne sommes pas morts pour dire, ah mais lui il est mort, non. Mais le sacrifice sur lequel notre alliance est fondée, c'est le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi nous venons devant l'autel de Dieu. Parce que Christ a pris notre place. La Bible déclare qu'il s'est chargé de nos péchés. Il a pris notre condition à la croix. Alors lorsqu'on vient à l'autel pour se marier, l'homme dit à la femme, je te reçois comme époux, je me donne à toi. Frère, tu as dit non. Alléluia. Je me donne à... Ça veut dire ma vie n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est ta vie. Ce sont tes intérêts qui sont importants. Tes intérêts passent avant mes intérêts. Je m'engage aujourd'hui à ne faire que ton bonheur. Et l'homme aussi dit, ma chérie, à partir d'aujourd'hui, mes intérêts ne sont pas importants. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi. À partir d'aujourd'hui, mais je ne vivrai que pour faire ton bonheur. Voilà ce que signifie le mariage. C'est une alliance. Et cette alliance est ratifiée devant l'autel par quoi? Par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi le mariage est indissoluble. Qui peut rembourser le sang de Jésus? Sœur, la Bible dit, il n'est pas bon de faire un vœu à l'Éternel. Si tu fais un vœu à l'Éternel, respecte le vœu que tu as fait. Devant l'autel de Dieu, tu as dit, je m'engage à faire le bonheur de cet homme. Et qu'est-ce que tu as dit des fois? Dit, dans le bonheur et dans le preuve, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Rappelle-toi l'engagement que tu as pris devant l'Éternel. Tu as pris un engagement, non pas envers un homme, mais tu as pris un engagement vis-à-vis de Dieu. Après, sur la route, tu dis, non, il est trop mauvais. Un mauvais type comme ça, je ne veux plus à lui, c'est fini. Je ne veux plus vivre avec lui. Tu t'en vas. Oh, ma copine, mais qui t'a poussé à partir là-bas? On t'a attaché. Alléluia. Le mariage est également un acte de foi. Dis amen. Un acte de foi car Dieu est la source de l'amour. Au moment où je me lève pour dire je vais me marier à cet homme-là, je l'aime. Je dis ouais, je aime ce monsieur. Oh, je ne peux pas vivre sans lui. Sans lui, je ne peux pas vivre. Mais comme la Bible déclare que Dieu est la source de l'amour, que Dieu est amour, alléluia, je crois au fond de mon cœur que ce Dieu en qui je me confie, si réellement je me confie en lui, qu'il est le gardien de notre amour. Que c'est lui qui gardera la flamme de notre amour. Et c'est pourquoi nous sommes venus à l'autel. Parce que c'est un homme et une femme croyant, baptisé. C'est à ce moment-là que le mariage est validé devant l'église. Sinon, lorsque c'est un homme et une femme qui ne sont pas mariés, on fait dispense. N'est-ce pas? Ça veut dire demain, on dit lui n'est pas croyant. Demain, s'il ne veut plus, là, il peut partir. Alléluia. Mais lorsque ces deux croyants, deux chrétiens qui sont venus devant l'autel de Dieu, qui ont pris cet engagement, je vais te dire quelque chose. Même si tu as quitté ton mari depuis 10 ans, il est encore ton mari. Quand vous allez vous retrouver devant l'Éternel, il va vous poser une question. Est-ce que tu penses avoir fait le bonheur de ton mari? Est-ce que tu penses avoir fait le bonheur de ta femme? C'est la question que Dieu va te poser. Alléluia. Tu es devenu calme un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est la parole que je prêche. Alléluia. Alors, nous comprenons que le premier élément pour pouvoir comprendre comment gérer les problèmes de foyer, c'est de trouver l'origine des problèmes de foyer. Et la première origine essentielle, c'est l'absence de Dieu dans le foyer. C'est lorsque les deux personnes qui sont engagées dans l'acte de mariage ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne prient pas. Dieu est absent de leur foyer. Donc, tous deux, ils ont essayé de former un foyer, mais sans Dieu. Et comme Dieu n'est pas là-bas, ce qui reste, c'est quoi? Le feu. Le feu. C'est pourquoi lorsqu'il y a un foyer dans lequel il n'y a pas Christ, vous remarquez la rancune, les disputes, les palabres. Parce que quand on est chrétien réellement, authentique et converti, lorsque tu as fait palabre avec ta femme ou ton mari, lorsque le soir tu dois te coucher, que tu as baissé la tête, tu dis Seigneur, le Saint-Esprit parle à ton cœur et te dit va te réconcilier. Alléluia. Est-ce que c'est faux? Il parle à ton cœur, il dit va te réconcilier. Tu tournes dans le lit, tu tournes boucla, 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 boucla. Au milieu de la nuit, tu avais. Faut te lever, on va parler. Lève-toi, on va parler, parce que tu ne peux pas dormir. Moi, mon affaire là, je ne peux pas dormir avec. Il faut qu'on se parle. Il va dire, je suis fatigué, je vais partir. Tu dis, hé, chef, lève-toi, on va parler. Vous allez parler quand vous avez fini de parler. La minute après, tu dors. Alléluia. Chrétienne authentique, ça veut dire que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur et tu saisis ce que l'Esprit de Dieu te dit. Amen. La Bible déclare dans le psaume 127, verset 1er, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu n'est pas présent dans le foyer, En vain, vous essayerez de construire ce foyer, mais Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Il y a également la présence du péché comme source de difficultés dans le foyer. Lorsque l'homme et la femme vivent loin de Dieu, ils ne cherchent pas à comprendre le dessein de Dieu sur le mariage. Donc il y a une mauvaise compréhension du mariage. L'homme pense que le mariage, il est venu juste se caser. Écoute ma copine, tu voulais te marier, non? J'ai mis la bague à ton doigt. Tu es assise dans la maison, reste tranquille, et puis lui, il est en villégiature. Le matin, il se lève, il est parti. Quand il revient, c'est pour changer sa chemise et puis ça va. Hey, bonjour chérie, ça va? C'est un coup de vent. Mais tu vas où? Non, 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 j'arrive, je vais chez des amis, il est parti. Oh, chef. On dit les deux deviendront une seule. Moi, je suis petite de taille et je suis assez potelée. Mon mari, il est grand, il est mince. Moi, je suis noir, il est clair. Pour que lui et moi, nous devenions une seule chair, pour que nous fondions l'un dans l'autre. Mais il y a des parties de moi qui doivent être coupées. Et puis, il y a des parties de mon mari aussi qui doivent être coupées. Pour que nous deux, nous puissions nous ajuster, que nous devenions une seule chair. Donc, il y a des éléments que tu es obligé d'abandonner. Il y a des choses que tu es obligé de laisser. Il y a des choses, alléluia, que tu es obligé d'abandonner. Parce que si tu n'abandonnes pas ces choses-là, comment est-ce que tu veux que vous deveniez une seule chair? Il y a un prix à payer. Il est obligé. Chef, tu es marié. Ma soeur, tu es marié, tu veux vivre comme une célibataire. Ce n'est pas possible. Tu vas, tu dors en boîte. Un homme marié, tu dors en boîte. Hé, frère, pendant ce temps, ta femme est couchée en train de soupirer. Elle va te tromper demain, tu vas dire adultère, mon ami. Je vais te dire quelque chose. Son manger, c'est ça. Hé, elle te cherche. Elle fait ça. Tu n'es pas là. Elle est jeune. Elle est belle. Il y a des sollicitations dehors. Oh. Alléluia. Ma soeur, toi aussi tu es mariée. Depuis que tu vas à l'église, tu dors là-bas. Tu es toujours devant le Saint-Sacrement. Jésus, oh, ricatatatatata. Oh, Jésus, oh, alléluia. Tu es au groupe du rosaire. Alléluia. Ricatatatatata. Tu es toujours couché là-bas. Ma copine, le gars à la maison, il est assis, il soupire. Hey, je me suis mariée pour être seule. Mais comment ça se fait? Mais elle est partie où? Où tu t'en vas? Tu as un groupe de copines. Et les copines ont fait quoi au cinéma? Non, chérie, excuse-moi, je vais avec les copines au cinéma. Vous êtes partie au cinéma. Non, je vais avec les copines à la piscine. Tu es partie à la piscine avec tes copines. Ma chérie, pendant qu'il est seul dans la maison, il tourne, il dit, bon, écoutez, je vais aller faire un petit tour. Hein, je vais faire un petit tour. Mais quand il sort, s'il est à Daloa comme ça, il y a une petite antilope qui voit passer. Et puis voit l'antilope qui est en train de passer. Alléluia! Il voit la petite antilope, t'es marron, bonbon, chocolat praliné. Elle est belle comme ça, ventre bien plat. Tu la vois, alléluia. Un nombril dehors, avec un petit canisson et une plume dehors. Hé hey! Ça comment? Ah. Alléluia. Quand on se marie, il y a un prix à payer. Il y a des choses à abandonner. Oh, pour la plupart, on se marie sans savoir ce que c'est que le mariage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'autre, son argent, sa position sociale, son corps. Et quand le profit n'existe plus, écoute, tu ne me sers plus de rien. Bonsoir. Alléluia. Et bien sûr, en plus de ça, écoute, si tu n'es pas heureuse, écoute, on divorce. Hein? Ok? On divorce. Oh, la Bible déclare, ils deviendront une seule chair. On ne respecte pas la loi de Dieu relative au mariage. Et c'est pourquoi les foyers connaissent des difficultés de tous ordres. Et nous allons essayer de répertorier ces difficultés. La première difficulté essentielle que l'on constate dans le problème du mariage, c'est le problème de communication, le problème de communion. Dieu a dit pourtant dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'un être humain a besoin de communiquer. Il a besoin de communier. Et ce besoin-là est essentiel dans le mariage. La raison essentielle du mariage, c'est véritablement le besoin de partager avec l'autre, de fraterniser. C'est pourquoi, lorsque Dieu a fini de créer Ève, il n'a pas fait hippie. Quand Ève est sortie, il a dit Adam, voilà. Et puis il a sauté sur un pied, je ventre à terre. Puis pouc, il a commencé à faire. C'est faux. Alléluia. Ève a été la compagne d'Adam avant de devenir son épouse. Alléluia. Elle a vécu avec Adam. Jusqu'à la chute, Adam n'avait pas connu Ève. Jusqu'à ce que le serpent vienne faire chuter Ève. Mais Adam n'avait pas encore connu Ève. Ils étaient ensemble, ils vivaient tranquillement, ils causaient, ils riaient. Ma copine, si ton chéri est là, dis-lui, nous devons fraterniser. Oh, nous devons fraterniser. Mais parle avec ta femme. C'est ta première amie. Alléluia.
Parle avec ton mari, c'est ton premier ami. C'est avec lui que tu dois discuter. C'est avec lui que tu dois parler. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu comprennes, c'est essentiel. Amos 3:3 dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ce n'est pas possible. L'union de deux personnes repose toujours sur un consensus. Communiquer, c'est écouter l'autre. C'est le comprendre. Et c'est se faire comprendre. Écouter, comprendre. Et puis maintenant, se faire comprendre. Trois aspects. Il est nécessaire d'échanger, de se parler pour se comprendre. Et puis être amis. Ça veut dire apprécier la présence l'un de l'autre. Alléluia. S'écouter. Je me suis rendu compte que le gros problème des couples, c'est qu'ils ne s'écoutent pas. Ils s'entendent, mais ils ne s'écoutent pas. L'homme parle, il parle, il parle, il parle. La femme aussi parle, elle parle, elle parle. Mais ils ne s'écoutent pas. C'est pourquoi ils ne se comprennent pas. Ils ne s'écoutent pas. Pendant que l'homme parle, au lieu d'écouter ce que ton mari est en train de dire, ma soeur, tu assises les puis tu es en train de chercher les mots que tu vas lui dire et puis ça va lui faire mal. Tu dis celui-là, mais il peut rien pour attendre. Mais il n'a qu'à finir seulement. Et puis il va voir ce que je vais lui dire. Mais ce que je vais lui dire là, ça va casser son lance. Tu veux le blesser même. Il ne sait pas que je l'ai vu, hein. Avec la fille, il ne sait pas que je l'ai vu, mais il n'a qu'à finir de parler. Il va savoir qui a mis l'eau dans le coco. Hey, alléluia. Il faut écouter. Pendant qu'il parle, que ton esprit soit attentif à ce qu'il est en train de dire. Écoute ce que ton mari dit. Écoute ce que ta femme est en train de dire. Pour comprendre la préoccupation de ta femme et la préoccupation de ton époux. Il faut que tu écoutes. Alors quand tu as écouté, tu peux mieux comprendre ce que ton mari ou ta femme voulait t'exprimer. Alors tu dis, oh, d'accord, j'ai compris. Et à ce moment même, ne cherche pas d'abord à répondre. Essaie de mieux comprendre ce qu'il a voulu te dire. Alléluia. C'est-à-dire, tu dis quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu telle chose, quoi pas. Et puis il t'explique encore, tu dis, ah d'accord. Tu t'assures que tu as bien compris. Alors quand tu as compris, tu peux maintenant lui donner la réponse. Et puis t'assurer que lui aussi il a bien compris. C'est pourquoi il existe les expressions du genre, c'est-à-dire que, si tu ne sais pas, les expressions, c'est-à-dire que, là. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, là. Voilà ce que ça veut dire. Vous savez, mon mari est quelqu'un qui est très calme, il parle pas beaucoup. Mais vous savez que les gens qui parlent pas beaucoup, là, quand ils parlent, là, ça fait mal. Hein. Alléluia. Et moi, quand mon mari parlait, les trois premières années de notre mariage, quand il parle, c'est-à-dire que je suis aux aguets parce qu'il sait qu'il va m'envoyer une droite. Donc, je suis déjà prête à parler. Quand il a dit, et en même temps, j'ai enflammé. Je réponds, j'ai dit, du tac au tac, en même temps. Et puis quand j'ai fini de répondre, je suis content. Il dit voilà, je lui ai envoyé la droite à la même hauteur, à la même douleur et à la même dimension de ce qu'il m'a dit. Parce que ça me faisait trop mal. Alléluia. Je réponds comme ça. Quand j'ai fini de répondre là, mon mari est tout le temps, toujours en train de se plaindre. Tu ne me respectes pas. Quand je parle à toi, tu ne me respectes pas. Voilà ce comme tu es. Voilà comme tu es. Voilà comme tu es. Il parle. Tu ne me respectes pas. Et ça lui faisait mal. Je voyais qu'il bouillonnait. Il me dit... C'est parce que j'ai dit que je ne veux jamais te taper. Je te frappe, tu vas voir. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Et un jour, nous sommes partis à une assemblée de prière d'un homme de Dieu. C'était un authentique homme de Dieu. Je vous assure que ce jour-là, l'homme de Dieu n'a pas prêché sur le mariage. Au contraire, il a prêché sur les dons spirituels et leurs manifestations. Mais je vous assure que quand on sortait de là-bas, mais je vous assure que tout ce que l'homme de Dieu a dit là, sur le chemin, mais j'avais l'onction de Dieu me suivait et je vous assure que c'était la manière dont je parlais à mon mari là. C'est cette manière là que Dieu me montrait. Je vous assure qu'on arrivait à la maison, je pleurais. Je disais, vous ne m'aidez pas. Vous ne m'aidez pas. Et mais tu as quoi? Que je dis, je ne sais pas. Mais le Seigneur me montre que je ne suis pas bien. Que je réponds trop mal à mon mari. Et elle a dit, aidez-moi. Et j'ai pleuré. Elles ont prié pour moi. Elles étaient toutes étonnées. Attends, aujourd'hui, on n'a pas parlé de mariage. Il y a quoi? C'était le Saint-Esprit qui était en train de faire son travail. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris une résolution vis-à-vis de Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus répondre du tac au tac à mon mari. Quand il parlera, si ça me fait mal, je me tais, je quitte là. Et puis, j'attendrai un moment opportun pour lui parler. J'ai arrêté de lui parler du tac au tac et de lui répondre mal. Et puis, je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu'après, tranquillement, je lui disais, tu sais, chérie, tout à l'heure, quand tu m'as parlé, vraiment, tu m'as mal parlé. Il dit, ah bon, je t'ai mal parlé. Il a dit quoi? Je lui dis, mais voilà ce que tu as dit. Il dit, mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Je lui dis, mais si, c'est ce que tu as dit. Il dit, non, Mais regarde les expressions que tu as utilisées. Et il finit de parler. Il dit, non, mais moi j'ai dit ça, c'est voilà ce que je voulais dire. Je me suis rendu compte que 80% de nos disputes étaient des problèmes d'incompréhension. Parce que je vais vous dire, la parole dépasse toujours la pensée. Et le démon est très fort pour faire quoi? Pour attirer votre attention sur le petit mot. Un tout petit mot. Il te dit, regarde comme il t'a parlé. Est-ce que tu vois un peu la partie là? Mais là, là, il t'a parlé mal. Hey, il t'a parlé trop mal. Alléluia. Et puis tu es fâché. Quand j'ai constaté cela, j'ai commencé à baisser le ton. Je me suis dit, j'ai dit, chérie, est-ce que tu sais que je me rends compte que on ne se comprend pas? Je me rends compte que quand je te parle là, quand tu me parles, tu utilises une expression, mais qui ne traduit pas ta pensée. Fais attention quand tu me parles, parce que j'ai l'impression que ta parole dépasse ta pensée. Quand j'ai commencé à lui dire, c'est dit en bon, hein, il a commencé à faire plus attention. Les palabres ont disparu. C'est parti, actuellement, obladi, oblada, love me, on m'entend, m'entend. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des amis. Il apprécie ma présence et j'apprécie sa présence. Hier, mon mari est venu, il était assis derrière là-bas. J'étais ici, j'étais plus là. Alléluia. Quand j'ai vu mon mari derrière, il dit, hey, mon chéri est arrivé, il est là. Alléluia. Il est arrivé, il était là, j'étais dans les vapes. Je suis sorti, mon chéri, comment tu vas? Et j'étais contente. Mon bonheur était assuré. L'onction de Dieu de se déverser sur ma vie comme ça. Parce qu'il était là. Alléluia. Parce que nous causons ensemble, nous partageons. Nous parlons de tout. Et entre nous, il n'y a pas de sujet tabou. Alléluia. Parce que maintenant, je sais l'écouter. Parce que le Luc 8, 18 dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez-vous avec patience. Et ne répondez pas du tac au tac. Évitez les disputes. Et surtout, des disputes devant une tierce personne. Même devant vos enfants, évitez les disputes. Parce que Matthieu 18, 15 dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Et Jacques 1, 19 dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc il faut savoir se taire, et il faut savoir se soumettre. Surtout mes soeurs, sachez vous soumettre. Vous pouvez discuter bien avec votre mari sur un sujet particulier. Et vous vous rendez compte que votre mari, il ne veut pas écouter ce que vous lui dites. Laissez-le. Ok chérie, je pensais que je te donnais un conseil, je pense que c'était comme ça, mais comme tu penses autrement, ok allons-y, vas-y, allons, fais comme tu sens, laissez-le. Quand il va aller se cogner la figure une fois, deux fois, trois fois, la prochaine, il va pas venir vous dire immédiatement sur le champ, chérie tu avais raison, hein. Il va venir, il va tourner, non, mon truc là ça n'a pas marché, tout ça il va tourner, et puis la troisième fois avant d'aller faire la chérie, mais écoute chérie, qu'est-ce que tu penses de ça même? Et puis quand vous avez donné votre avis, bon, je vais marcher sur ce que tu as dit, parce que vraiment la dernière fois là, j'ai essayé, là, ça n'a pas marché. Ma copine, c'est pas la peine de lui dire, quand je t'ai parlé, tu m'as pas écouté là. C'est bien fait pour toi. Tu es parti te cogner la figure maintenant. C'est pas la peine. Il faut faire un bon usage de la parole. Quand vous vous parlez, il faut que ce soit pour construire, non pour détruire. Car Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et Jacques 3, 2 dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue est dangereuse. Elle peut détruire un homme. Elle peut détruire un être humain. C'est un feu, la langue. Or, nous devons exercer auprès de nos maris un ministère d'encouragement. Tu dois encourager ton mari. Quand ton mari a des projets et qu'il veut faire quelque chose, tu regardes le projet, tu analyses au regard de Dieu. Tu sais que c'est un bon projet et qu'il va élever ton mari. Tu dis, chérie, c'est bien. Je veux que tu le fasses, c'est bien. Je veux porter sans prière. Je serai là à tes côtés pour te soutenir. Et quand il viendra vous parler de ce projet, oui, chérie, c'est bien. Moi, je pense que l'initiative que tu veux prendre, c'est bien. Fais ça comme ça. Et vous êtes là, ah, vraiment, mon chéri, tu es un champion. Vous allez voir que ça va susciter en lui. Ça va réveiller, alléluia, l'être qui sommeille en lui. Parce qu'en chacun de nos maris se trouve un champion. Proverbe 19, 13 dit, les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Eh ma soeur, arrête de faire palabre. Arrête de faire palabre. Il y a des moments où palabre n'est pas bon. Tais-toi et ne fais pas palabre. Tous les jours, c'est toi. Il va venir me trouver ici. Et puis, je regarde ce qu'il m'a fait. Et puis, il m'a fait ça. Tu fais un calendrier des péchés de ton mari qui date de 1901. Oh. Attends, en 1900, il y a des soeurs, quand je viens à l'écoute, je m'assois. Il y a 10 ans, là. Et puis il m'a trompé. Et puis il a pris une femme. Et puis il a fait un enfant. Mais l'enfant est mort. Hein. Et puis maintenant, après ça, là, il a pris une deuxième. Et puis en plus une troisième. Et puis maintenant, là, il est sorti avec la nièce de la cousine, du frère, de mon oncle, de son cousin. Hein? Depuis 50 ans, tu tiens un calendrier, ma soeur, tu vas mourir. Tu vas avoir le cancer. 10 ans de péché de l'individu, tu portes ça sur ton cœur. Hein? Tu es forte. Ah. Alléluia. Arrête de te disputer, même pas la terre, et pardonne un peu. Proverbe 17, 14 dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant que Palabla ne commence à retire-toi, quitte-la. Si tu n'as pas fait Palabla une fois là, ça fait quoi? Je vais les laisser. Après tout ce qu'il m'a fait là, cette fois-ci là, je ne laisse pas. On va mourir ensemble. Ma chérie, il va te boxer. Le lendemain, ton œil sera gros comme ça. Et puis maintenant, tu vas, c'est pas la peine. Mais il y a un petit coin où tu peux l'attraper. Attends, ça vient. Ah, c'est là-bas, tu attends. Je n'ai pas dit de porter short pour dormir. Hein? Alléluia. Attention aux paroles qui sortent de nos lèvres. On ne parle pas pour blesser, mais on parle pour comprendre, pour se faire comprendre. S'assurer donc que tout ce qu'on dit, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour construire. Tu es dans la même barque que quelqu'un. Vous êtes assis dans la barque est en train de prendre de l'eau. On dit, il faut enlever l'eau pour verser. Tu dis, c'est toi qui as creusé le trou. Hein? C'est toi qui... L'eau monte, tu dis, c'est toi qui as creusé le trou. Hein? Voilà, c'est toi qui as creusé le trou. Bah, tu es en train de te battre, l'eau monte. Ma copine, je te dis, l'eau monte. Hey, l'eau monte, tu ne vas pas lever l'eau pour verser, pour t'assurer que vous allez traverser pour arriver de l'autre côté. Ce qui t'inquiète là, c'est lui qui a percé le trou. Tiens, il a percé, il a percé. Il a percé et alors enlève l'eau, tu vas verser dehors. Sinon tu vas te noyer toi-même. Alléluia. Il faut contrôler nos bavardages, nos plaintes. Quand on a eu, on doit parler à son mari, il ne faut pas chercher à avoir raison. Mais il faut chercher à comprendre pour avancer. Tu es marié à l'église, tu ne vas pas partir. Ma copine, tu ne vas pas partir. Donc, essaie d'arranger. Essayez de vous comprendre pour avancer. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir raison. Si tu veux, même blackout sur ta raison et puis avance. C'est ça qui est important. Depuis que j'ai compris ça, là, c'est fini. J'ai dit actuellement, c'est Obladi. Ah, love me. M'entends. Ah, tu ne fais pas parler. Ce que tu veux, c'est trouver une solution au problème précis auquel vous êtes confronté. Faut pas être orgueilleuse. L'homme aussi, faut pas être orgueilleux. Apprends à demander pardon un jour. Chérie, pardon, demande pardon un jour. Parce que les hommes n'aiment pas demander pardon. Il a fait la chose, il sait très bien que c'est mauvais. Il va quitter le bébé. Machou, ça va? Son pardon là, c'est ça. Hein? Machou, ça va? Il a touché ta jambe. Ça va, Machou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es façon comme ça. Oh, toi-même, tu aimes ça, quoi. Voilà son pardon. Chérie, prends ça comme ça. L'essentiel, c'est que tu avances. Tu as dit quoi? Quoi? Eh? Après ce que tu as fait, là, il commence à pleurer. Après ce que tu as fait, tu m'as même pas demandé pardon. Oh, pardon, là, ça va t'apporter quoi? Et puis ça va t'enlever quoi? Laisse. L'essentiel, c'est qu'il est revenu vers toi. Avance. Et Proverbe 13 dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Et Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En plus, il faut éviter de s'injurier. Éviter de vous insulter. Vous mettre en colère au point de vous insulter. Il faut éviter cela. Il est important aussi au niveau de la communication d'éviter de faire un mauvais usage du silence. Il y a certaines sœurs, comme c'est comme ça, on dit de ne pas parler là, je parle plus. Quand le monsieur a quelqu'un dit, chérie, on fait ça, tu as 6 secondes. Quand il te parle là, tu as mis ta figure à moi, les cas. Tu es comme ça. Arrête-moi ça. Proverbe 27, 5 dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. C'est-à-dire, vaut mieux même que tu fasses pas l'âme. Il faut s'attaquer au problème et non à la personne. Attaque-toi au problème. Quel est le problème? Ce problème-là, attaque-toi à ce problème. Et puis, ne t'attaque pas à ton mari ou à ta femme. Laisse-le là. Et puis, règle le problème. Amen. Alors, pour cela, il faut avoir la volonté de résoudre le problème. Mais en même temps que tu veux régler ce problème, non, il faut qu'on parle. Non, chérie, tu sais, il faut qu'on parle. Tu te rends compte que le monsieur n'est pas réceptif. Laisse-le. Tais-toi. Laisse l'eau couler sous le pont. Parce que bien souvent, je vous dis, à 80%, quand nos maris sont en toi, ils ont honte. Et quand c'est comme ça, là, il prend la colère pour mettre dedans. Quand tu viens parler, il dit, il y a quoi? Oui, j'ai fait que. Et puis quoi? Et puis quoi? Fais là-bas. Ma chérie, il t'a insulté, puis ça va te faire encore plus mal. Mais quand tu te rends compte qu'il n'a pas envie de discuter, quand tu dis, il veut parler, tu dis, je n'ai pas le temps. Je veux pas. Ne parle plus. Laisse. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Au bout d'une semaine, tu vas voir que quand tu vas venir parler, parce que ma chérie, dans tous les cas, il va revenir au petit coin. Quand il arrive au petit coin, tu parles pas. Faut pas dire à ce moment, je ne veux pas. Et bien, tu as porté jogging pour dormir. Non. À ce moment, ma chérie, tu t'occupes de lui. Quand tu as fini de t'occuper de lui, au moins, vous êtes tranquille. Le repos du guerrier. C'est à ce moment-là, tu dis, maintenant, chérie. Dès qu'il a fini, dors. Et réveille-le. Il peut pas dormir en même temps. Aïe. Faut pas attendre qu'il dorme. Quand il a fini là, en même temps vous êtes encore dans les bras l'un de l'autre. Tu dis, bon chéri, ça va, bon écoute, je voulais qu'on parle un peu. Il va t'écouter. Alléluia. Il faut attaquer donc le problème au bon moment. Et il faut éviter les tabous, s'il vous plaît. Je vous en supplie, mes sœurs. Il faut éviter les tabous. Il faut être franc l'un avec l'autre. Parce que c'est la franchise qui sera la base de votre communion et de votre unité. Si vous n'êtes pas franc l'un avec l'autre, ça ne va pas. Ma chérie, quand tu te rends compte que tu as déconné, là, tu dis vraiment, chérie, excuse-moi, mais j'ai déconné. Là, vraiment, l'argent qu'on a gardé là-bas, il dit, je ne voulais pas, j'ai pris l'argent, là, j'ai dépensé. Faut être franche. Quand tu es franc, il est fâché, hein, mais parce que tu lui as dit, il accueille mieux. Mais quand tu ne dis rien, puis il découvre. Ah putain. Mais là, pas là, moi-même, ça va très mal. Il faut éviter de parler de tabous. Il faut être franc, il faut pouvoir parler de vos finances. Chérie, voilà, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont mariés. Le monsieur ne sait pas combien sa femme gagne et la femme ne sait pas combien son mari gagne. Hey, pour vous là, c'est comment? Ah, il faut que vous soyez franc, que vous puissiez partager. Ah chérie, vraiment, voilà ce que je gagne. Lui aussi, il sait combien tu gagnes. Écoute chérie, bon, à la fin du mois, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Votre mari aussi, vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer à être comme cela avec lui, lui aussi va commencer à s'ouvrir. Mais si vous vous fermez, il pourra pas s'ouvrir et vous ne saurez jamais ce qu'il fait de son argent. Il va avoir 50 maîtresses dehors. Il va les entretenir, prendre maison, villa, avec tout dedans, tu sauras pas. Or si tu lui dis, tu t'ouvres à lui, et que lui aussi s'ouvre à toi, tu sais combien il gagne. À partir de là, s'il est dans la difficulté financière, tu sais qu'il est dans la difficulté financière. Tu vas commencer à lui demander, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Ce mois-ci quand même, bon, quand même, à la fin du mois, tu as été payé, voilà, les charges de la maison qu'on a eu à faire. Mais tu te rends compte très vite qu'il y a un problème, alors tu peux chercher une solution à ton problème. Mais si tu ne parles pas, tu ne pourras pas trouver la solution à ton problème. Il faut pouvoir parler aussi de notre sexualité. C'est très important. Parce qu'on se marie aussi pour la sexualité. Or, la plupart du temps, nos sœurs ont de ces fausses pudeurs, mais ça peut me tuer. Ton chéri à lequel tu fais la chose là, il vient t'asseoir avec toi pour te parler de ce que vous avez fait ensemble. Hé, chérie, toi aussi, il faut laisser ça. Hein? Tu veux parler de ça? Moi, je n'aime pas qu'on parle. Ma chérie, si tu n'as pas parlé avec lui, comment il va te dire que quand tu fais comme ça là, ça lui fait bien? Ah! Il faut que vous puissiez parler de ces choses librement. Et cela nous emmène à aborder le deuxième point de problème dans les foyers, le problème de la sexualité. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 7, à partir du verset 2 à 3, il est écrit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Sœur, c'est à toi que je veux m'adresser ce soir. Tu es toujours fatigué. Quand il arrive, tu dis, je suis fatigué. Il faut me laisser dormir. C'est vrai que bien souvent, nous sommes fatigués parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons, nous venons à la maison, il faut voir un peu ce qui se passe à la maison. Et puis quand nous voyons ce qui se passe à la maison, qu'est-ce que nous faisons? Il faut encore, pour nous par exemple qui sommes enseignantes, il faut en plus aller corriger les copies. Et puis quand vous avez fini, vous êtes complètement vanné. Au moment où vous arrivez, vous allez vous coucher, vous voyez que monsieur vient. C'est-à-dire que vous-même psychologiquement, vous êtes fermé. Il y a une dame de Dieu qui dit, quand c'est comme ça, vous n'êtes pas prête. Alors qu'est-ce que vous faites? Oui chérie, une minute, j'arrive, je vais prendre une douche. Pendant que vous êtes en train de prendre la douche, vous commencez à prier. Seigneur, mon mari a besoin de moi. Je suis fatigué. Mon corps est fatigué, mais toi Dieu, tu sais. Je te prie qu'en cet instant, tu me donnes de pouvoir répondre aux désirs de mon époux. Pendant que vous serez en train de prier, Dieu va venir à votre aide. Quand vous allez retourner là-bas, il va se demander si ce n'est pas une jeune minette dehors. Alléluia. Il va se poser des questions. Il faut que vous puissiez être en prière, que vous puissiez demander au Seigneur de vous aider. Alléluia. Amen. Parce que ma copine, je vais te dire, si tu ne fais pas avec lui, il va aller faire dehors. Et quand il va aller faire dehors, la soeur Charlotte vient en parlant, vous a dénoncé ce que les jeunes filles dehors font. Ventre dehors, fesses dehors, car elles sont un plume dehors là. C'est comme ça, ce qu'elles font. Elles ont des petits comprimés qu'on appelle ministres. Un villa, il y a voiture, il y a billets d'avion. Quand elles utilisent ces petites potions, qui en général viennent des pays limitrophes, Mali, comment on appelle ça, Burkina, Sénégal. Quand elles finissent, t'es fini, ton mari ne te sent plus, il ne te voit plus. Il y a une qui s'en vantait et qui disait, elle a un petit canari, elle dépose sur le feu et puis elle met son petit drapé dessus. Quand le monsieur arrive, elle a mis le petit drapé, elle s'est assise sur le canari, elle a encensé bien son derrière, elle s'est bien encensée elle-même, huilée et tout. Quand le monsieur est rentré dans sa couche, sœur, tant qu'elle n'a pas dit à l'homme marié là, papa, va à la maison parce que ta femme est là-bas là, il se rappelle même plus qu'il a une famille. Il ne se rappelle plus. Or, toi, tu es toujours fatigué. Ma copine, faut pas être fatigué, oh. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Il faut pas utiliser la sexualité, votre intimité pour punir le mari. Comme il a fait ça là. Oh, il est mort. Mais ça là, une semaine, il peut pas me trouver. Il va pas trouver même pour faire même. C'est là, je l'attends. Alors, à ce moment-là, tu portes jogging. Tu mets culotte déchastée avec cadenas dessus. Bah, et puis tu l'attends. Quand il arrive comme ça, tu es spécialiste en coup de coude. Quand il arrive, tu dis, laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille là. Et puis tu le chasses, ma copine. Faut pas faire ça. C'est pas bon. Amen. La Bible dit que la seule raison pour laquelle tu peux te refuser à ton mari, c'est véritablement pour vaquer à la prière. Et c'est d'un commun accord. Ça veut dire que tu as dit à ton mari, chérie, tu sais, ces derniers temps, je pense qu'à la maison, on a des petites difficultés, je veux prendre 3 jours de jeûne, je veux jeûner pour ce problème-là. Il sait que tu es en train de jeûner pour vous. À ce moment-là, il accepte de consentir ce sacrifice-là pour que tu puisses prier et jeûner. Mais c'est pas pour cette raison-là. Ta fatigue de tous les jours-là, ma copine, arrange-toi, gère ça, vois comment tu veux. Mais fais en sorte que ton mari puisse avoir accès à toi quand il te désire. Amen. Et puis, comme je disais, il faut éviter les fausses pudeurs. Alléluia. J'aurais bien aimé pouvoir développer entièrement. Je pense qu'on va faire une session spéciale pour les femmes où on va parler de la sexualité dans le couple. Et je pense qu'on aura l'occasion vraiment de débattre de certaines choses, de toucher certains points. Amen. Je voudrais vraiment parler de cela. C'est-à-dire que cette fausse pudeur, on a des sœurs qui sont là. Ton mari vient, chérie, mets des habits. Pourquoi? Et puis tu tires le pagne sur toi. Ma copine, si tu ne lui plaisais pas, il ne t'aurait pas épousé. C'est parce que tu lui plais. Alléluia. Que il t'a épousé. La Bible dit clairement, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 25, il est écrit que Adam et Ève étaient nus devant l'un et l'autre et ils n'en avaient point honte. Toi, tu as honte de ton mari. Attends, si tu as honte de ton mari, de qui tu vas avoir? Attends, non, franchement, avec qui tu vas te sentir à l'aise? Celui avec lequel tu dois être une seule chair. Il faut que tu saches, au contraire, que ton mari prend un plaisir véritable à te regarder, à t'observer, à voir ta nudité et que ça lui plaît. C'est pour ça qu'il veut te voir. Même dans au moment T là, quand il tire le pain, il dit, mettons la couverture sur nous. Ma copine, enlève la couverture. Ne fatigue pas les gens. Alléluia. Alléluia. En plus, fausse pudeur. Toi, tu es toujours en bas. Monsieur dit, non, chérie, tu sais, moi j'aime bien quand tu passes en haut. Moi, je ne sais pas passer en haut. J'ai honte. Moi, ma chérie, la minette là, elle passe en haut, elle fait des acrobaties. Toi tu es assise là, tu es en train de soupirer. Je veux pas. Tu veux pas. Et j'ai dit, elle a fait des acrobaties. Elle fait jusqu'à. Elle plus même dans son oreille. Tu vas rester là, assois-toi. Alléluia. Assois-toi. Et c'est ce qui explique l'infidélité conjugale. Maintenant quand ton mari s'en va, tu pleures. Tu viens trouver le Seigneur, prier pour moi. Priez pour moi. Le monsieur là, il veut même plus me toucher. Ma copine, quand il vient avec toi, toi tu es couché bada. Et puis maintenant quand il arrive de l'autre côté là, oh la petite lui montre que la vie est belle. Donc quand il sort de là-bas, il dit ouais, non la petite là, non elle va me rendre dingue. Non elle va me rendre dingue. Ma copine, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas le monde qui vient dans l'église, je vais te dire. Ne te choque pas de ça, mais c'est la vérité. Et tu dois comprendre qu'une femme, ça doit séduire son mari, surtout dans l'intimité. Je dis, je prêche contre le string qui est porté n'importe comment. Nous, on a des fesses comme ça. Tu t'en vas porter string, tu mets un pantalon tremblant. Et puis quand tu marches, tes fesses, tout. Ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais tes charmes appartiennent à ton époux. Si tu achètes un string avec plume pour porter dans l'intimité à ton époux, ma chérie, je t'encourage. Parce que je dis, là, c'est là que Dieu t'attend. Alléluia. Parce que là, tu dois porter le string là-bas. Alléluia. Tu mènes le string. Car ça, je te donne l'astuce. S'il y a longtemps, il t'a pas touché, tu portes le string. Ce soir même, tu vas t'acheter un nouveau string. Quand tu as porté le string là, je vais te donner une astuce. Achète-toi une pommade, une huile, les essences naturelles. Ma chérie, tu te scies le corps de la tête aux pieds. Quand il rentre dans la chambre, tu as porté une petite nuisette. Et puis quand tu passes comme ça, quand il te regarde, hey, c'est une fée. Tu dis, c'est pas une fée chérie, c'est moi. Alléluia. Tu dis, chérie, c'est moi. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mon chéri, c'est moi. Ne t'en fais pas, c'est moi. Alléluia. J'ai dit, dans l'intimité, tu as le droit de gâter sa tête. Tue-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est dans la maison. Tu as porté la petite nuisette, tu fais comme s'il ne te voit pas. Dès qu'il rentre dans ta chambre, la chambre, tu fais, est-ce que tu bien mettre ton truc? Tu te tournes quand tu dis, il va te chercher, qu'est-ce qu'il dit? Je cherche ma chaussure. Il n'y a rien à faire, la chaussure sera retrouvée. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prenons Cantique des Cantiques au chapitre 4, verset 9, il est écrit, alléluia. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Alléluia. Le monsieur de Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 5 dit, détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Un seul regard de cette femme réussissait à troubler ce monsieur au plus profond de lui. Cela nous parle de la sensualité. Dieu n'est pas contre la sensualité. Il dit c'est la sensualité vis-à-vis de mari d'autrui là. C'est ça qui est mauvais. Et c'est ce que nous déplorons. Parce que la sensualité qui se promène sur le goudron là, ça on ne veut pas. Fesses dehors, ventre dehors, sein dehors, poils pubiens dehors. C'est ça qu'on ne veut pas. Mais vous exposez vos charmes sur le goudron. En d'autres termes, clients, venez, il y a marchandise. Venez, il y a marchandise. Oh, Dieu ne veut pas de ça. Mais dans l'intimité de ta maison, avec ton époux, ma sœur, c'est normal que tu sois sensuelle avec ton époux. C'est normal que tu saches charmer ton époux. C'est normal. Et puis Marie, vous aussi, qu'on vous dise la vérité un peu. Mon ami, ta femme peut te dire, chérie, tu sais, moi quand tu me prends de telle façon, ça ne me plaît pas. Je veux que tu le fasses comme ça. Mon ami, faut pas te fâcher. Ne te fâche pas. Mais c'est la vérité, si tu n'as pas dit là, à qui elle va dire? C'est parce qu'elle ne veut pas te tromper qu'elle te dit, toi il faut faire comme elle l'aime là. Tu ne veux pas qu'on te dise, mon ami, c'est pas une affaire de truc. Il n'y a pas école pour ça. Il n'y a pas école pour ça. C'est dans votre intimité. Tu dis, non chérie, voilà, quand tu me prends comme ça, je suis heureuse. Je préfère que tu le fasses de telle manière. Attends, tu t'offusques pourquoi? Donc Dieu dit quoi? Il ne fait pas bien quoi? Donc Dieu dit quoi? Mon ami, on n'a pas dit tu ne fais pas bien, on dit de faire comme ça. Alléluia. Et un problème aussi qui s'installe dans les foyers au niveau de la sexualité, c'est la routine. Vous commencez à sentir la routine et vous avez l'impression que vous n'êtes plus séduit l'un par l'autre. Ma copine, si tu te rends compte que ton mari commence à s'installer dans la routine, je vais te dire, il faut que tu saches relancer les choses. Ma copine, changez d'espace. Invite-le ailleurs. Ma chérie, fais comme une de mes tantes. Elle dit, elle a pris ses petits dessous, elle a mis dans son sac. Elle a dit à son mari, écoute, je te retrouve à 18h dans tel hôtel. Il dit, ah bon? Oui, je t'attends là-bas. Il dit, je dis, non, là-bas. D'accord, ok. Le gars s'est levé. En partant, elle s'est parfumée. Elle s'est fait toute belle. Comme une jeune fille, elle est arrivée là-bas. Quand le gars est arrivé, il a dit, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il dit, non, viens. Quand ils sont partis là-bas, là, quand le gars est sorti là-bas, non, il était en forme comme ça. Il dit, ouais. L'onction. Je sens le feu. Je sens le fire. Ma copine, il faut inventer des jeux dans votre intimité. Ne soyez pas crispés. 40 ans, vous êtes là, on dirait des vieux, des, je sais pas, 1900 ans. Et même les vieux là, même ils s'inventent des petits plaisirs. Il y a quoi? Et puis, il faut comprendre aussi quelque chose d'essentiel. Le bonheur que Dieu a mis dans cette table-là, il est un bonheur à partager. Chef, faut pas faire pour toi, et puis tu es parti. Oh, pense à ta femme, prépare-la. Il y a une préparation préalable. Mon ami, c'est là où on voit que tu es un chef. C'est là où on voit que tu es chef. C'est un, tu as abouti, un n'a pas abouti, tu as échoué. Faut que je te dise la vérité, tu as échoué. Donc il faut arrêter. Arrête-moi ça. Toi, tu es toujours un rapide. Prrr, prrr. Tu as marqué le but, tu es parti. C'est quoi? Arrête-toi un peu, il faut dribbler un peu. Dribble, mon ami, dribble. Hey! Alléluia. Faut montrer à cette femme-là que tu l'aimes. On appelle ça faire l'amour. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de notre amour. Il faut lui montrer que tu l'aimes. Amen. Il faut que tu lui montres que tu l'aimes. Je voudrais ouvrir un petit break à l'infidélité. Alléluia. Je voudrais vous dire, chers sœurs, que lorsque vous vous rendez compte qu'une autre femme existe dans la vie de votre mari, la première chose, la première réalité à laquelle vous devez être confronté, c'est à vous-même. Vous devez vous rendre compte que ça veut dire que quelque part, il y a un problème dans votre manière d'être avec votre époux. Il faut véritablement que vous vous remettiez en cause. Si mon mari fait cela, c'est parce que peut-être il y a défaillance au niveau de tel domaine ou tel domaine de notre couple. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez gérer. Vous devez gérer, c'est-à-dire prendre sur vous la responsabilité de résoudre le problème. Comme une de mes sœurs, alléluia, elle s'est rendue compte que son mari était en train de la tromper. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand le gars rentre dans la maison comme ça, le soir, il dit « Bonjour chérie, ça va ?» Quand il rentre dans la chambre, elle dit « J'arrive. » Il dit « Y'a quoi ?» Elle dit « J'arrive. »« Tu arrives ?» Il dit « Oui, j'arrive. » Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle rentre dans la chambre, elle est sur lui. « Hé, chérie. » « Ah, d'accord, ok. » Ah non, il pensait, la première fois, il pensait que c'est parce que bon, elle avait envie, c'est tout. Ah, d'accord. Le soir, dès qu'il est rentré du travail net, elle l'a suivi en même temps, elle dit « J'arrive. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « Non. » Mais tu vois que quoi? Je suis photo. Je suis pas photo, tu m'as marié, tu m'as mis dans la maison, si c'est pour quelque chose. Donc, travaillons. Elle le poursuit. Le lendemain, quand il est le matin, quand il s'est levé, à 6 heures du matin, il va laisser la main, il dit, chérie, j'arrive. Il dit, mais comment tu es arrivé? Il dit, mais c'est ça, j'arrive. Il dit, pardon, pardon, à midi. Si tu fais à midi, pardon. Ma copine, poursuis-le, il n'aura plus le temps pour elle. Poursuis-le. Hé! Hey, mais poursuis-le, ça, toi, ça t'appartient. Et puis, quelqu'un d'autre est en train de voler là-bas. C'est parce que tu fais pas assez qu'il a le temps de partir là-bas. Tu es celui, quand il rentre dans la maison, s'il est parti là, il a chaud. Parce que quand il arrive à la porte, quand il rentre, il dit, chérie, ding, ding, me voici. Tu vas voir qu'il va commencer à ne plus partir là. Parce qu'il dit, je suis épuisé. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ma copine, il va s'asseoir. Alléluia. Il va s'asseoir. Il faut que tu te rendes compte qu'il y a un défi à relever pour toi. J'ai une de mes amies, quand elle s'est rendue paix à son âme, quand elle s'est rendue compte que son mari, elle la trompait, elle est venue me chercher chez moi. J'étais à Pobwe. Il veut dire m'accompagner. J'ai dit quoi? Elle dit, je m'en vais acheter des perles. J'ai dit, des perles? Mais attends, des perles où? Elle dit, ma copine, mon mari me trompe. J'ai découvert que mon mari me trompe. Mais il est mort. Mais parce que je vais gâter sa tête, je vais le séduire. Mais voilà la réaction d'une épouse qui aime son époux. Parce qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle veut reconquérir son mari. Mais toi, au lieu de ça, tu fais palabre. Et c'est toi qui es devenu caca mou. Et puis l'autre est devenu un ange. Parce que quand il vient chez toi, toi tu fais palabre. Et puis il va chez l'autre, elle est contente. Tu deviens caca mou. Arrête de faire palabre. Et puis dis-toi, ce type-là, non. Il va tomber, il va ramper à mes pieds. Oh, je l'attends au petit coin. C'est à ce moment, ma chérie, les anciennes phases même que tu ne te rappelais plus là. Révise-les. Alléluia. Révise les phases. Quand il sort de là, il dit, mais attends, qu'est-ce que ce papa? Et là, à ce moment, il commence à se poser des questions. Il dit, celle-là. Mais de toute façon, la phase qu'elle a faite aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'il doit avoir quelqu'un. Il y a une chose dont les hommes infidèles ont horreur. C'est de sentir que leurs épouses leur échappent. Ça, là, quand ils entendent ça, ils tombent comme ça, ils veulent mourir. Tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes. Mon ami, donc tromper là, ça fait mal. Alléluia. Je voudrais aborder un quatrième point qui concerne les problèmes de foyer. C'est le problème de la gestion des enfants. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28 dit, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjétissez. La sœur qui a prêché sur la femme et l'éducation des enfants nous a fait comprendre que les enfants sont un don de Dieu. C'est Dieu qui nous les a confiés. Les enfants ne sont pas notre propriété, ils sont le don de Dieu. Dieu nous les a confiés pour que nous soyons des modèles, que nous soyons des personnes qui concourent à leur équilibre. Il faut savoir que l'éducation des enfants se fait ensemble. Ça veut dire qu'il y a des points sur l'éducation des enfants dont il ne faut pas parler comme ça, dehors, devant l'enfant, et en faire des sujets de dispute. Au contraire, il faut que vous vous asseyiez ensemble, dans l'intimité de votre chambre, dans la prière, que vous fassiez des plans pour vos enfants. Il faut que les enfants soient éduqués ensemble. Il faut éviter de se disputer devant les enfants. Il faut éviter les disputes, surtout si l'éducation des enfants en leur présence. Parce que cela nuit à l'autorité de l'un ou de l'autre. Si papa parle et puis maman dit, ah, faut laisser mon fils tranquille. L'enfant, pour finir, n'aura plus de respect pour son père. Proverbe 22, 6 dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Lorsqu'un enfant pose problème, il faut éviter de se jeter la pierre. Mais il faut s'entendre sur les actes à mener pour le salut de cet enfant. Il faut surtout prier pour vos enfants. Alléluia. Nous devons apprendre à faire des économies de prière pour nos enfants. Tu attends, c'est au moment où c'est gâté là. Maintenant, tu te promènes de lieu en lieu, d'endroit en endroit, pour demander aux hommes de Dieu de faire de la magie pour que ton enfant devienne bon. Maintenant qu'il est petit, c'est maintenant que tu dois porter ton enfant en prière. C'est maintenant que tu dois te charger de l'éducation de cet enfant, de lui inculquer. C'est maintenant que tu dois lui inculquer les comportements qu'il doit avoir. Tu dois l'appeler à la prière. Tu dois aider ton enfant à prier. Et il faut aussi apprendre à bénir nos enfants. Parce que lorsque nous prenons Genèse 49, on nous montre comment Jacob bénit chacun de ses enfants. Et la bénédiction de Jacob sur la vie de chacun de ses enfants s'est réalisée. Ça veut dire que nous, parents, nous avons une autorité sur la vie de nos enfants. Il importe donc de quoi faire, de bénir votre enfant. Appelez votre enfant et bénissez-le. Mon fils, il s'est levé, il est venu me trouver, maman, je vais être premier. J'ai dit, ah bon? Bébé, tu es sûr? Il dit, oui, maman, je serai premier. Je dis, oui, chérie, je sais que tu es un champion. Donc, je sais que tu seras premier. Qu'est-ce qu'il fait? Avant la composition, il dit, maman, va faire la composition. Je dis, bébé, tu as prié? Il dit, oui, va prier. Va prier encore. Il va prier. Il revient, dit, maman, j'ai prié. J'ai dit, tu as bien travaillé, tu as étudié. Il dit, oui, j'ai étudié. Le lendemain matin, je vais dans sa chambre, bébé. Comment? Il est à genoux. Il est en train de prier. Seigneur Jésus, aide-moi, donne-moi ton intelligence pour que je sois premier. J'ai dit, bravo, bébé. Tu as bien travaillé et tu as bien prié. Allez, viens, je t'accompagne à l'école. Il est parti à l'école, il a été premier. Alléluia. Il a été premier. Parce que le soir, avant de me coucher, quand je fléchis les genoux pour adorer mon Dieu, je lui dis, Seigneur, tu as dit que nos enfants seront la tête et jamais la queue. Seigneur, je te prie parce que mes enfants sont comme une flèche et cette flèche est propulsée vers sa destinée et rien ne pourra les arrêter. Seigneur, je prie parce que je te dis au Père, mes enfants seront un point de référence dans cette nation. Chaque fois, je fléchis les genoux et je prie pour mon enfant. Je prie pour que chacun de mes enfants soit ce que Dieu veut qu'il soit. Que rien ne fasse obstacle à ce qu'ils devront être. Il faut que tu pries pour tes enfants, ma sœur. Tu attends que ça se gâte d'abord et quand c'est gâté, tu pleures. Ton mari et toi, vous devez vous entendre pour prier pour vos enfants et cela est essentiel. Il y a également le problème financier. Proverbe 8, 10 dit, préférez mes instructions à l'argent. Je veux vous dire que dans le couple, les problèmes financiers constituent un véritable problème. Il faut que l'homme et la femme sachent clairement que lorsqu'on vient se marier, c'est pas pour profiter de l'argent de l'un ou de l'autre, mais c'est pour construire ensemble le foyer. Ecclésiastes 5, 9 à 10 dit, qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Et c'est vrai. Parce que les femmes en général qui sont dépensières, qui aiment l'argent, quand le monsieur donne l'argent avant la fin de la semaine, l'argent est fini. Maintenant, chérie, donne-moi. Et puis, donne-moi encore. Et puis, donne-moi encore. Et puis, donne-moi encore. Nous exaspérons nos maris en le faisant. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. 1 Timothée 6 dit, l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. Et il nous faut donc savoir que nous devons arrêter de tels comportements, mais au contraire être des femmes de grâce, des femmes de bénédiction. Alléluia. Nous devons apprendre avec nos maris la gestion des affaires du foyer. La femme est le ministre de l'intérieur. Donc elle doit avoir un regard sur tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qui manque dans votre maison? Est-ce que les draps sont vieux? Est-ce que les nappes sont vieilles? Est-ce que véritablement vous vous rendez compte que bon, les fauteuils commencent à se faire vieux, etc. C'est à vous de faire en sorte que dans votre budget familial, vous commencez petit à petit à épargner pour renouveler ce qui est à renouveler dans la maison. Ça fait 12 ans que je suis marié, 12 ans que je suis marié. Mon mari n'a jamais acheté un drap. Il dort sur des draps. Il n'a jamais acheté une nappe de table. Mais il s'essuie la bouche avec des nappes. Mais comment ça se fait? Oui, comment ça se fait? Il faut apprendre à faire ces choses. Il faut apprendre à gérer ces choses. Alléluia. Apprendre à gérer ces choses. Soyez une femme bonne gestionnaire à l'intérieur de votre foyer. Amen. Et vous aussi, ne soyez pas des maris trop pingues. Parce qu'en général, quand on vous parle du marché, vous ne connaissez pas les réalités du marché. Quand la femme dit, vraiment le marché est difficile, je ne veux pas. Prenez-le un jour, allez au marché un peu avec lui. Chérie, allons nous promener un peu au marché. Quand vous avez fini de faire marcher 5 000 seulement, c'est pour ça c'est petit. Achetez-lui les gros macharons qu'il aime bien manger là. Quand vous avez vu, madame, c'est combien? Il va dire 4 000 francs, 5 000 francs. Ah, chérie, tu as vu les 5 000 francs que tu m'as donné là, ça a payé seulement le macharon. Quand il sort de là, il va augmenter l'argent. Faut pas faire par là, beau. Alléluia. Ou bien simplement tu dis, bon chéri, tu sais, comme j'ai pas le temps aujourd'hui, tu m'as donné, tu as dit combien même pour le poisson? Il va dire 15 000 francs. Tu dis, ok chéri, tiens, faut acheter, comme tu es en voiture, tu achètes deux, tu passes au port, tu m'achètes le carton de poisson. Il arrive là-bas, on lui dit 25 000. Il va compléter. Quand il a complété, il a dit, tchit, chéri, le poisson là, ça coûte, il te dit, ah, c'est ce que je t'expliquais. C'est comme ça que l'on fait. C'est pas la peine de faire des palabres. Amen. Et en plus, je voudrais dire que nous sommes des femmes qui travaillons maintenant pour la plupart. Mais nous devons comprendre que cela ne nous exempte pas d'un devoir domestique. Nous devons veiller à ce que l'on prépare dans la maison. Nous devons entrer nous-mêmes dans la cuisine quand nous sommes à la maison. Veiller au matériel de maison. Venir à l'église, certes, mais aussi être à la maison. Et la soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est l'acceptation volontaire de la volonté de l'autre. C'est le fait de dire, ok, je pense avoir raison, mais comme il dit que c'est comme si, ok, il est l'homme, il est le chef de la maison, je le laisse faire ce qu'il veut. Fais ce que tu veux, une fois, deux fois, la troisième fois, je l'ai dit tout à l'heure, il fera attention à ce que vous proposerez. C'est comme ça que l'on gagne le cœur de son mari. Et quand vous vous rendez compte que votre mari est fermé, complètement fermé, qu'est-ce que vous faites? Vous fléchissez le genou et vous priez. Parce que la Bible dit que le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Dieu a le pouvoir de l'incliner comme un courant d'eau. Donc, à partir du moment où vous commencez à prier pour votre mari, Seigneur, par rapport à telle chose, je ne sens pas la chose, mon mari veut le faire, je lui ai dit, ok, il peut faire, mais vraiment, Seigneur, je soumets cela devant toi. Seigneur, j'en appelle à ton alliance à cause de ton amour. Fais en sorte qu'il ne dépense pas cet argent de cette façon, de telle façon. Dieu réagit toujours parce que Dieu est fidèle. Le dernier point que je voudrais aborder dans les problèmes de foyer, c'est le problème de la belle famille. Alléluia. La loi de Dieu dit, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Alléluia. Le premier gros problème, c'est que quand l'homme n'a pas coupé le cordon ombilical, quand il n'a pas coupé ce lien entre son père et sa mère et lui pour venir dans le foyer, même s'il ne vit pas avec ses parents, sa mère ou son père, ils sont dans la maison. Parce qu'il gère le foyer. Quand le monsieur doit prendre une décision, il va s'en référer à sa mère avant de venir. Quand il doit prendre une décision importante, il va aller chez sa maman. Maman, tu sais, oh, je voulais faire telle chose, sa maman va donner son point de vue. Il va prendre la décision de sa mère, il va venir. Même quand sa femme dit qu'elle ne veut pas, il va appliquer ce que sa mère a dit. Alléluia. Mais il faut comprendre aussi, mes sœurs, que c'est un lien spirituel. Alléluia. Il y a le problème du mariage mystique. Il faut faire attention. Surtout en Afrique, les mamans font quoi? Elles font beaucoup de pratiques quand les enfants sont petits. Ok? Qu'est-ce que la maman fait? Elle va cracher dans la bouche de son enfant quand il est bébé, oui. Ou carrément, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'urine de l'enfant pour donner à l'enfant à boire. Ça veut dire quoi? L'enfant retourne toujours à ses origines. L'urine qui sort de lui, elle met dans la bouche. Oui, les mamans font ça. Et quand elles font, c'est des actes spirituels qu'elles posent. Et en posant de tels actes, l'homme n'est jamais entièrement et totalement libre. Il n'est jamais libre. Il a toujours l'impression d'être le petit garçon qu'il était et qui subissait la pression de sa mère ou de son père. Alors, à tout temps, quelle que soit la décision qu'il a à prendre, il est obligé d'en référer à eux parce que ce sont eux qui sont son point de référence. Il n'est pas capable seul de prendre une décision. Et c'est pourquoi de telles personnes, quand ils perdent ce parent-là, pendant longtemps, ils restent complètement déboussolés. Parce qu'ils n'ont plus de point de repère. Ils ne savent plus quoi faire. Et quand c'est comme ça, vous êtes son épouse. Vous avez autorité parce que la Bible déclare que vous et l'homme avec lequel vous êtes marié, vous faites une seule chair. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous tenez dans la présence de Dieu. Alléluia. Et vous coupez le lien entre sa mère et lui ou entre son père et lui. Vous coupez ce lien mystique pour que le monsieur soit libre ou que la femme soit libre et qu'elle puisse, parce que je sais que ça existe aussi chez des femmes. Elles sont là, mais tous les week-ends, elles ont funérailles chez sa maman. Elles ramassent tous les week-ends, elles ramassent ses affaires. Elles vont passer le week-end chez sa maman. Tous les week-ends, sans exception. C'est des liens mystiques et il faut pouvoir les briser. Amen. Et puis, on se rend compte aussi d'une chose. C'est que quand c'est comme ça, surtout dans les familles où il y a des pratiques de sorcellerie, ça c'est clair, en Afrique, il faut qu'on se dise la vérité. Dans les familles où il y a des pratiques de sorcellerie, on envoie toujours un parent, une personne extérieure qui vient vivre dans la maison et qui est un sujet de dispute constante entre le monsieur et sa femme. Alléluia. Quand c'est comme ça, en général, remarquez la personne qui est venue. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on vous dit, ah, il y a telle personne qui va venir dans la maison. Que mon oncle, mon cousin, mon neveu, le fils de telle personne, de ma sœur, etc., va venir dans la maison. Et on vous l'annonce. Quand on vous l'annonce, on vous dit, oui, mais qu'est-ce que tu en penses, etc. Bon, vous n'avez pas le courage de dire non. Vous dites, bon, d'accord.
Mais est-ce que vous savez qu'en le faisant, vous avez ouvert la porte de votre foyer spirituellement à cette personne? Et elle vient dans votre maison, elle est comme un point d'antenne qui permet de contact, qui permet de communiquer avec l'extérieur. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe dans votre maison, ils sont au courant. Je connaissais un couple comme ça. Quand le monsieur entre dans la chambre avec son épouse, s'il a une intimité avec son épouse, sa belle-mère est quelque part dans Abidjan ici, elle est au courant. Oui. Quand elle a un retard d'un jour, deuxième jour, troisième jour, sa belle-mère l'appelle. Allô? Ah oui, j'ai rêvé, tu étais enceinte. Les deux jours qui suivent, en même temps, elle perd sa grossesse. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu d'abord venir dans la maison et attaquer la forteresse qui était dans la maison. Nous avons attaqué la forteresse, j'ai pris autorité, on allait prier dans la maison et j'ai dit au Seigneur, l'œil spirituel qui se trouve dans cette maison, je le casse au nom de Jésus. Son beau-frère qui était dans la maison, le lendemain son œil était comme ça. Il dit très bien, Seigneur, on a commencé déjà à trouver la solution. Quand il est sorti de la maison, il a fui, il est parti en cité. Quand il a fui, il est parti en cité, ça c'est rien. Il n'a rien dit encore, Seigneur, je fais maintenant les yeux de l'ennemi au ventre et à l'intimité de ta servante. Je ne permets plus à l'œil de l'ennemi de voir au travers d'elle. Elle était enceinte, elle avait peut-être 8 mois quand sa belle-mère a su qu'elle était enceinte. Alors que jusqu'alors, tout le temps, à peine rentrait dans la chambre avec son époux, que déjà ils étaient informés de ce qui se passait dans la maison. Alors quand c'est comme ça, la personne qui est dans cette maison, il faut pouvoir la faire sortir de la maison. Dieu n'a dit dans aucun verset de la Bible, ce n'est pas écrit. Dans aucun verset, tu dois vivre avec ton père, ta mère, ou bien ton épouse, avec tous tes petits frères et sœurs. À moins que charitablement, l'épouse accepte, parce que par exemple, vous êtes orphelin. Ça, c'est la charité chrétienne. On est d'accord? Dieu n'a pas dit de chasser des orphelins. Il dit au contraire de s'en occuper. S'ils sont orphelins dans des situations extrêmes de ce genre, je pense qu'il est bon de pratiquer la charité. Mais lorsque ces éléments menacent votre foyer, ma sœur, vous avez le droit de vous lever et de dire non. Il faut arrêter. Vous avez le droit de vous lever et de faire en sorte que la personne qui constitue le point de blocage dans votre foyer sorte du foyer pour que vous puissiez avoir la paix dans ce foyer. Alléluia. Problème également important, c'est le problème, je disais toujours, des rapports avec les parents de votre mari ou de votre épouse. Parce que quand c'est comme ça, c'est délicat. Si vous parlez mal à votre belle-mère, on dit vous l'avez insulté. Si vous parlez mal à votre beau-père, on dit vous l'avez insulté. Et ça devient difficile parce que le mari ou la femme se retrouve dans une situation assez difficile. D'un côté, il a son épouse qu'il aime bien, et de l'autre côté, il a sa mère aussi qui dit « Oui, moi, ta femme m'a insulté, elle a fait ci, elle a fait ça. » Donc, première précaution, évitez de répondre au mari, au père ou à la mère de votre belle-mère, de votre femme ou de votre mari. Arrêtez. Ne leur dites rien, ne dites rien. Mettez votre épouse devant ses responsabilités. Mettez votre époux devant ses responsabilités. Il a la responsabilité de gérer sa famille. Comme je disais une fois, j'ai dit dans chaque famille, il y a des chiens enragés. Mais que chacun gère ses chiens enragés. Parce que si nous on laisse nos chiens enragés venir dans notre foyer, vous convenez avec moi que ça ne va plus. Donc mon ami, gère pour toi, je vais gérer pour moi. Parce que l'alliance que nous avons faite, c'est toi et moi qui avons décidé ensemble de venir. Donc il faut que tu saches canaliser ta famille et que moi aussi je sache canaliser ma famille. De la même manière que je ne permets pas à ma famille de venir te manquer, ne permets pas à ta famille de venir me manquer. Mettez l'homme devant ses responsabilités. Il arrive des fois où l'homme est complètement subjugué, il n'a pas d'autorité devant sa famille. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est anormal. La première chose, c'est qu'en fait, la femme se révolte. Elle se révolte, mais comment il laisse sa famille m'insulter? Ses parents sont venus me faire ci, ses parents sont venus me faire ça. Je vais vous dire quelque chose. Moi, dans l'expérience que j'ai eue, je me suis rendu compte que c'était spirituel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier. Ma prière, c'était, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il se rende compte de ce qui se passe. Parce qu'au début, il ne s'en rendait pas compte. C'était difficile. Très difficile. Il ne s'en rendait pas compte. Quand je lui ai dit, oui, quoi, toi, tu n'aimes pas les membres de ma famille. Je me suis tue. Et j'ai dit à Dieu, ouvre ses yeux. Vous savez, le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Dieu a ouvert ses yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, qu'il a vu la réalité, là, il n'a pas osé me dire. Il n'a pas osé me dire. Maintenant, lui-même, il a commencé à prendre des garde-fous. Il a commencé à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. À tel enseigne que j'ai accouché, il dit, faut pas m'aller dire que j'ai accouché. Qui lui a dit? Est-ce que c'est moi? Dieu a fait un travail propre. Le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Ça vous dit, il faut que vous fassiez attention véritablement à ces choses. Il ne faut pas rentrer dans des palabres inutiles qui vont venir briser votre foyer et qui vont faire en sorte que votre mari sera obligé de vous lâcher. Et il faut éviter d'aller régler votre problème de couple en présence de vos familles. Parce que quand vous allez régler le problème de couple en prison de vos familles, qu'est-ce qui se passe? Chaque parent prend position. Mais elle a insulté mon frère. Elle a fait ci à mon frère, elle a fait ça à mon frère. Ça là vraiment, il ne peut plus vivre avec elle, c'est fini. Même s'il vous aime, il sera obligé à cause de sa famille de vous lâcher. Si votre père se rend compte, par exemple, votre mari vous a battu, il a fait ci, il a fait ça, et puis devant tout le monde, le père se sent humilié, il est venu vous chercher pour partir, viens, on va partir, et puis il est venu te chercher, tu es parti. Ma copine, pour revenir, c'est dur maintenant. Parce que même quand le chéri est passé te voir au bureau 3 fois, 4 fois, il dit, chéri, tu me manques, pardon, j'aurais pas dû te frapper, etc. Il t'a demandé pardon, c'est entre toi et lui. Mais entre temps, le papa est là. Il faut gérer le papa. Alors que le papa arrive, quand on arrive chez le papa, qu'on vient lui dire, je veux pas. Il a maltraité ma fille. Ma fille a du pli à mes yeux. Mais c'est vrai, sa fille a du pli à ses yeux. Réellement, il ne veut pas. Et cela pose d'énormes problèmes. Gérez vos problèmes de foyer vous-même. Je pense que j'ai prêché beaucoup sur le combat spirituel dans le couple. C'est pour ça que je n'entre pas dans les menus détails vraiment du combat spirituel dans le couple. Parce que il y a des cassettes qui existent d'ailleurs sur le combat spirituel dans le couple que vous pouvez avoir à la table de presse. Aujourd'hui, mon propos, c'est la gestion des problèmes de foyer. J'ai essayé d'ébaucher un peu certains points parce que je pense que ces problèmes-là sont importants. Ma prière, c'est que Dieu touche chacun de vous et que dans les différents domaines qui ont été abordés, si vous rencontrez une difficulté, que cette difficulté-là trouve dans la parole de Dieu qui donne la vie une solution. Amen.
De tout ton cœur, de toute ta force, car cela est la parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car cela est la loi du Seigneur. Quand bien même je parlerai la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, tout cela n'est que vanité. Même quand j'aurai toute la science de tout mystère,